France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Quand la philosophie joue au dé, nous parlons du hasard cette semaine et de la manière dont les philosophes l'abordent. Premier épisode, le premier mouvement de la philosophie n'est-elle pas de nier le hasard ou de le contourner ? Le problème du hasard, c'est que dès qu'on le pense, et même souvent dès qu'on l'approche, on a tendance à en faire un destin. S'en remettre au sort, n'est-ce pas se placer dans les mains d'une force nécessaire qui nous dépasse ? N'est-ce pas en un sens invoquer une divinité qui a des volontés, quoique nous ne les comprenions pas ? De fait, la fortune pour les Romains, la tuque pour les Grecs, était pour eux tous une divinité. Et on l'invoquait souvent au milieu d'autres dieux. Il n'est pas facile d'envisager que le hasard, mot d'origine arabe, azazar, signifiant le dé à jouer, soit une absolue non-nécessité. En réfléchissant au hasard, presque inévitablement on cherche, ou on suppose, une logique cachée, celle d'un dieu ou celle d'une loi de la nature qu'on ne connaît pas encore, peut-être qu'on ne connaîtra jamais, mais qui existe. Pas facile, surtout pour des philosophes désireux d'accéder à un au-delà de ce qui nous apparaît, de ne pas indiquer une logique profonde qui nie finalement le hasard. Pas facile, pourrait-on dire encore, d'en rester à Woody Allen et au narrateur du film Match Point, professeur de tennis.
Celui qui a dit « Je préfère la chance au talent » avait un regard pénétrant sur la vie. Les gens n'osent pas admettre à quel point leur vie dépend de la chance. Ça fait peur de penser que tant de choses échappent à notre contrôle. Dans un match de tennis, il y a des instants quand la balle frappe le haut du filet, où elle peut soit passer de l'autre côté, soit retomber en arrière. Avec un peu de chance, elle passe, et on gagne. Ou peut-être qu'elle ne passe pas, et on perd.
Pour laisser survivre le hasard, qu'il soit chanceux ou malchanceux, faudrait-il faire cette concession, ne pas le comprendre, ne pas savoir. Mais combien sont-ils les philosophes qui l'ont vraiment pensé ainsi, c'est-à-dire juste poser sans prétention à l'expliquer. Bonjour Pierre-Marie Morel.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de philosophie ancienne. Nous parlerons avec vous notamment de ce qui est peut-être le seul courant de l'Antiquité gréco-romaine ayant reconnu le hasard comme tel, la philosophie d'Épicure et de Lucrèce. Bonjour Pierre Guénantia.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de philosophie de l'université de Bourgogne, spécialiste de philosophie moderne, tout particulièrement d'auteur majeur du XVIIe siècle, Descartes, Locke, Pascal. Je crois savoir que vous combattrez ce matin l'idée que la philosophie n'aime pas le hasard. Peut-être concéderez-vous qu'elle a quand même du mal avec cette notion. Nous verrons. Bonjour Pascal Sévérac.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de Spinoza, encore un auteur du XVIIe siècle. C'est un choix de notre part parce que ce siècle est un moment majeur de fondation d'une immense confiance dans la raison. Spinoza se moque des pensées du hasard qui broient ce hasard en le rapportant à une volonté divine cachée, mais ne le rapporte-t-il pas lui-même, de son côté, à des lois de la nature, belles et bien nécessaires, qui peut-être le nient encore ? Nous verrons cela, mais pour commencer, voici un court extrait de l'Iliade, lu par Guy Moigne. Homère raconte au début du chant 3 comment les Troyens et les Athéniens décident au début d'une bataille qui lancera l'offensive en premier.
Hector, fils de Priam, et le divin Ulysse commencent par mesurer le champ. Puis, choisissant des sorts, il les secoue dans un casque de bronze pour savoir qui des deux, le premier, lancera la pique de bronze. Les hommes, alors, de prier en tendant les mains vers les dieux, et chacun de dire, achéen ou troyen, « Zeus, père, maître de l'Ida, très glorieux, très grand, fais que celui des deux qui à nos peuples apporta ses soucis meure et entre chez Hadès, tandis que nous, nous conclurons un pacte loyal de bonne amitié. » Ainsi, disent-ils.
Pierre-Marie Morel, dans l'Iliade, il faut souvent décider un certain nombre de choses. Et la divinité à disposition, alors, c'est tuque, c'est elle la fortune, donc c'est bel et bien une volonté.
Alors, la tuque, oui, c'est une fortune qui va très tôt interroger les philosophes qui vont se demander si la fortune, ce n'est pas effectivement une sorte de fiction. Et notamment puisque Vous faisiez allusion à Épicure, dans la tradition des atomistes, puisque Épicure, après Démocrite, considère que toutes les réalités sont composées d'atomes, de particules insécables et de vide. Pour cette tradition-là, il s'agit de se défier des pseudo-explications par la fortune qui auraient quelque chose de, en réalité, de surnaturel. Et il s'agit donc de trouver comment, sans nier pour autant la fortune, eh bien, on parvient à une approche rationnelle de celle-ci et de se libérer justement d'une espèce de fantasme collectif, d'une formule, d'une fortune qui dirigerait, qui tirerait en quelque sorte les ficelles de nos existences de l'extérieur.
Est-ce que ce n'est pas créer du certain, du décidé, du ferme, du déterminé, là où il y a normalement dans le hasard de l'incertain définitif, du point de vue en tout cas des humains ?
Alors, il y a des choses dans notre existence qui sont effectivement pleinement déterminées. Et l'idée sur laquelle on reviendra très probablement tout à l'heure, à savoir que finalement, lorsque nous invoquons le hasard, eh bien, c'est pour masquer notre ignorance des causes réelles. Cette idée-là, elle est déjà présente chez des gens comme Démocrite ou chez Épicure, qui voient bien le danger qu'il y a à confondre notre ignorance avec l'incertitude et en faire une incertitude objective. Mais ce qu'il y a de nouveau, et très intéressant avec les épicuriens, c'est que, précisément, ils disent « Oui, il y a ce risque d'un hasard fictif, mais il y a aussi une incertitude objective. Il y a aussi, dans le premier mouvement des atomes, des oscillations, des déviations, qui se produisent en un temps indéterminé, incertain, mais qui donnent une consistance physique au hasard lui-même. Donc le hasard, c'est pas simplement une espèce de pseudo-explication subjective, il y a aussi un enracinement physique dans le fonctionnement même de la nature.
Ne sont-ils pas les seuls à le dire dans le monde ancien, les épicuriens ? Si on prend des philosophes, parfois d'ailleurs plus connus, et on sait bien pourquoi, Platon par exemple, il a tendance à mettre beaucoup de choses, par exemple en matière morale, du côté de l'inné. Toutes les âmes ne sont pas tout à fait égales dans leur disposition morale. C'est bien pourquoi les philosophes devraient gouverner la cité et d'autres en sont moins capables, moins justes, naturellement, de manière innée. En tout cas, dans la République, c'est comme ça. Mmh. Donc, on a une façon de supposer que nous avons été faits d'une manière déterminée et pas hasardeuse.
Alors, ce qui est vrai, c'est que, puisque vous évoquez la morale et la politique, ce qui compte d'abord, c'est les intentions, les projets, ce que nous voulons faire d'une cité, ce que nous voulons faire dans l'action. Est-ce que ce matin, je vais aller faire du sport ? Ou est-ce que ce matin, je vais rester travailler dans mon bureau ? Ou est-ce que je dois ? Est-ce que je suis mu par la nécessité de me déplacer à tel ou tel endroit pour travailler ? Tout cela ne relève pas du hasard. Tout cela suppose de l'intention, un rapport à la société qui est déjà déterminé. Donc, on ne peut pas nier que dès qu'on se tourne vers l'action humaine, eh bien, il est impossible de se contenter du hasard. Et pour Platon, il est très clair qu'une cité, ça ne s'organise pas par hasard et qu'effectivement, elle doit être en quelque sorte déterminée par des principes qui, pour lui, sont d'ordre intelligible. L'idée du bien, l'idée du beau, de l'égalité. En même temps, puisque vous parlez de Platon, on a la surprise de trouver aussi chez lui une notion qui est très importante. On la trouve dans un dialogue qui s'appelle le Timé, notamment, mais aussi dans le dialogue qui s'appelle les lois, et qui est une notion qu'on traduit souvent par hasard, et qui en grec est automaton. On voit très bien ce que ça donne dans les langues modernes. Un automate, c'est un artefact, un objet artificiel qui se meut de lui-même. Enfin, en tout cas, après une première impulsion, il se meut tout seul. La voiture mécanique, une fois qu'elle a été remontée, eh bien, elle suit sa trajectoire d'elle-même. Et Platon reconnaît que dans la nature, il y a une part de spontanéité irréductible. Et cette spontanéité, c'est une des caractéristiques fondamentales de ce hasard. Alors, Platon, lui, comme vous le dites, il va essayer de limiter le plus possible la part de cette spontanéité objective qui résiste à l'action, qui pour nous fait obstacle à nos intentions. Mais il nous met déjà sur une voie qui va être aussi celle des atomistes de l'Antiquité.
Donc il y a plus de continuité entre eux. On va revenir sur cette idée du
spontané. Continuité relative, en tout cas.
Présent dans la nature. Pierre Guénantia, on fait un énorme saut dans le temps. On arrive au XVIIe siècle. sur des terres chrétiennes, européennes, il y a un Dieu quand même tout puissant qui nous a fait. Est-ce seulement lorsque les penseurs chrétiens considèrent que l'homme est libre, que Dieu nous a fait libre, que l'on peut envisager du hasard au sens où nos libertés s'entrechoquent, mais chacun est inattendu, donc ça peut produire des choses inattendues, mais est-ce vraiment du hasard ?
Je crois qu'il y a deux plans. Il y a un plan, en quelque sorte, officiel de la pensée, et sur ce plan-là, il est absolument impossible de penser que les choses sont indéterminées, qu'une chose peut arriver ou peut ne pas arriver, etc. Si Dieu est tout-puissant, s'il est sage, selon tous les attributs qui sont les siens, il ne peut pas, d'une certaine manière, laisser le monde aller comme il peut, comme si c'était sur des flots, avec cette incertitude de dynamique, en quelque sorte. En un sens, tout est déterminé, ce qui ne veut pas dire que c'est un destin, ça veut dire que c'est une rationalité. Et Dieu, qui a donné les lois à la nature, laisse après la nature se débrouiller par elle-même, si je puis dire. Mais elle se débrouille par elle-même avec les lois qu'il lui a imposées. Donc ce ne sont pas tant des lois intelligibles que des lois qui permettent justement aux choses de marcher régulièrement. Et régulièrement, ça veut dire de manière répétée. De façon, c'est pour ça qu'il y a une science, c'est pour ça qu'il y a une prévision, et plus qu'une prévision, une détermination des causes et des effets. Voilà, ça c'est le plan en quelque sorte officiel, si je puis dire, ce qui ne veut pas dire que c'est un plan factice, hein. C'est un plan officiel, c'est-à-dire c'est le plan de la raison, quand la raison se place justement sur une sorte de dimension d'éternité, de répétition, de même qui redevient le même, etc. Maintenant, il y a un autre plan, et c'est sur ce plan, si je puis dire, que nous habitons en tant qu'hommes. Et sur ce plan, bien que nous sachions que Dieu a tout fait, nous savons aussi que nous ignorons la plupart des choses, d'une part, qu'il a faites, et d'autre part, nous ignorons, et ça c'est une notion extrêmement importante pour le hasard, nous ignorons quels sont les événements qui vont être produits. Donc il y a d'une part des causes, des phénomènes, des lois, des actions, mais d'autre part, il y a des événements. Et l'événement, au fond, est irréductible à la causalité. Non pas au sens où il n'a pas de cause, mais au sens où il peut en avoir beaucoup. Et qu'on ne peut pas déterminer laquelle sera. Donc, vous voyez, par exemple, Descartes dit « bien que nous vivions parmi une infinité de hasards ». C'est-à-dire que demain, Pierre-Marie l'a dit, demain il peut se produire ceci, ou demain je peux ne pas être là, demain il peut faire beau ou mauvais, demain il peut y avoir une guerre ou au contraire, etc., etc. Je ne sais pas ce qui peut se produire demain. Et cette incertitude, au lieu d'être une paralysie de l'action, est au contraire ce qui va permettre à l'action humaine de se dérouler sur un plan qui est le sien, c'est-à-dire le plan conjugué de l'ignorance objective et de la détermination subjective. Voilà, c'est-à-dire que, justement, dès lors que j'ignore ce qui va se produire, j'ai tout intérêt à me déterminer moi-même, à prendre un parti, Pascal reprendra ce terme, justement, de parti, à prendre un parti et à m'y tenir, même si, justement, l'événement est différent de ce que j'ai supposé être. Donc, voilà, il y a une sorte de... C'est pour ça que j'exprimais quelques réserves sur l'hostilité de la philosophie au hasard. C'est que je pense qu'il y a au contraire un accueil généreux, si je puis dire, du hasard par la philosophie. Mais de hasard, je préférerais parler de l'événement.
Alors, je voudrais quand même qu'on reste... Après, bien sûr, je passerai au cas Spinoza, si j'ose dire.
Au cas Spinoza, comme disait Althusser.
Évidemment, vous êtes vraiment un très grand connaisseur de Descartes. Merci. Je crois que vous êtes fondamentalement cartésien. J'espère que vous acceptez
si
ce qualificatif.
Si je peux me permettre cette immodestie.
Ouais. Pierre Guénantia. Donc, il y a un texte très beau dans Les Passions de l'âme en 1649 de Descartes qui dit, évidemment, même le chemin rationnellement le plus sûr, il peut y avoir un événement qui le rend finalement bien moins sûr que l'autre. Mais ma raison doit quand même déterminer ce qui est
mon action,
et je dois quand même le prendre, ce chemin, si j'ai estimé, évalué qu'il était plus sûr que l'autre. D'accord, mais ça, c'est de mon point de vue. Évidemment, de mon point de vue, il y a de l'incertain, de l'événement et, direz-vous, avez-vous dit, du hasard. Mais d'un point de vue métaphysique, puisqu'il a quand même écrit des méditations métaphysiques, Descartes, du point de vue, par exemple, de Dieu, même Descartes ne considère-t-il pas, je dis même Descartes parce qu'il y a de la liberté, il y a de l'imprévu, etc., même Descartes n'est-il pas obligé de dire que Dieu lui sait ? Du point de vue de Dieu, il n'y a pas d'incertitude.
Ah oui, comment peut-il y avoir d'incertitude ? Alors dans ces cas-là, ce sera un Dieu incertain et inutile, comme les Descartes aux yeux de Pascal, c'est-à-dire un Dieu qui ne sait pas ce qu'il fait, c'est-à-dire un Dieu qui ressemble beaucoup à l'homme. Non, Descartes a construit, si je puis dire, une idée de Dieu qui est totalement dissemblable justement de celle de l'homme.
Donc il sait, lui, il n'y a pas de hasard pour lui.
Il n'y a pas de hasard pour Dieu, puisque c'est lui qui décide du réel, c'est lui qui crée le réel. Donc, de la même manière que si j'écris un texte, il n'y aura pas de hasard dans mes phrases, puisque c'est moi qui les génère. Le hasard vient de ce que je ne génère pas, justement, l'événement. Et c'est d'ailleurs le sens de l'événement, c'est ce que je ne génère pas, c'est ce qui arrive, c'est pas ce que je produis. Donc, de ce point de vue, bien sûr, Dieu n'autorise pas le hasard. C'est comme si, au fond, il autorisait une incertitude, ou c'est comme si il s'auto-limitait. Il auto-limitait son entendement.
Donc, du point de vue le plus profond, le plus juste, le plus savant,
oui,
ontologique, disent
oui,
certains,
oui,
le rapport à l'être,
oui,
il n'y a pas de hasard.
Bien sûr qu'il n'y a pas
le
de hasard.
Le hasard est notre illusion d'optique d'être fini.
Tout à fait.
Fini.
Le hasard, c'est la dimension subjective du savoir. Absolument. Le hasard implique la dimension, c'est-à-dire le fait que, justement, nous ne savons pas tout. Et c'est ça la différence entre l'homme et Dieu. L'homme sait tout. Lapsus non révélateur. Ouais. Dieu sait tout. L'homme ne sait qu'une toute petite partie des choses, et encore avec beaucoup d'efforts. Il faut faire des sciences, des expériences, etc., etc. Donc, en fait, voilà. Mais, justement, le hasard désigne cette sorte de part énorme, finalement, d'indétermination, d'incertitude, de possibilité aussi, dans laquelle, au fond, s'engage la liberté de l'homme. Mais elle n'est pas négative, cette liberté. C'est pas que je suis libre parce que j'ignore les causes. C'est que je suis libre parce que, d'une certaine manière, Dieu m'a donné cette possibilité de me déterminer par moi-même. Ce que l'animal automatonne, ce que l'animal, justement, ne fait pas.
Nous en venons à Spinoza, au moins pour ce premier moment un peu général sur le hasard. Après, peut-être entrerons-nous davantage dans le détail des textes. J'aimerais savoir, Pascal Sévérac, si Spinoza, qui a à peu près 35 ans de moins que Descartes, il est né en 1632, c'est une génération postérieure, ne s'est pas réemparé du problème tel que Descartes l'a posé et que vient nous expliquer Pierre Guédantia, au sens où, du point de vue de Dieu, il n'y a pas de hasard. Alors pour lui, Dieu, c'est carrément l'ensemble des lois de la nature, ce n'est pas une volonté personnelle. Mais est-ce qu'il n'a pas dit, Spinoza, mais l'homme a accès quand même, davantage qu'on le croit, s'il cherche bien, s'il raisonne correctement, il a accès à la nécessité suprême qui est le point de vue divin. Est-ce pour cela qu'il refuse le hasard ? Le refuse-t-il vraiment ?
Alors, d'une certaine manière, on pourrait dire oui, il refuse le hasard. La philosophie spinoziste, c'est une philosophie de la nécessité absolue. D'ailleurs, l'éthique et son ouvrage majeur s'ouvre sur le partage entre ce qui est libre, et ce qui est libre, c'est ce qui suit sa propre nécessité, et puis ce qui est nécessaire, ou plutôt contraint, comme dit Spinoza, et ça, c'est ce qui suit la nécessité autre. Donc on pourrait se dire, au fond, et on a le choix entre la nécessité par soi ou la nécessité par un autre que soi, on n'a pas le choix entre autre chose que la nécessité ou la nécessité. Et donc, si on doit définir le hasard comme le non nécessaire, comme vous l'avez défini au début, comme de l'indéterminé, pour Spinoza, ontologiquement et donc épistémologiquement, il n'y a pas de hasard, en effet. C'est une première réponse, et il n'y a que de la nécessité, et dans la mesure où on est dans un système de l'immanence, où là, l'homme exprime la puissance divine, fait partie de la nature, et la nature et Dieu, c'est la même chose pour Spinoza, dans cette mesure-là, la nécessité même de Dieu ou de la nature, elle est saisissable, en effet, par l'homme, elle est saisissable en partie. C'est-à-dire qu'il y a le principe de l'intelligibilité intégrale du réel, ça ne signifie pas que, de fait, l'homme peut tout savoir. Mais en droit, tout est connaissable à travers ses lois. Maintenant, je crois que Malgré cela, Spinoza réserve quelque chose comme une petite place au hasard. D'abord, comme Pierre l'a très bien dit, il y a à penser du possible en politique. Spinoza dirait, au fond, on participe du monde avant tout par l'imagination. Et imaginer les choses comme impossibles, c'est de fait, c'est comme une prophétie autoréalisatrice, c'est de fait être inhibé dans son action et ne pas penser que les choses vont être possibles. C'est pour ça que peut-être un enseignant spinoziste pourrait dire, malgré tout, à un étudiant, à un élève, tu peux mieux faire. Peut-être qu'il y croit pas, puisque tout est déterminé. Mais au fond, le dire, si on le dit bien, c'est, si on arrive à le faire croire, c'est donner de la puissance à l'autre pour qu'il fasse quelque chose d'autre que ce qu'il fait. Et donc, le rendre, d'une certaine manière, un peu plus puissant. Il aura un peu confiance, il se dira, ah oui, il y a peut-être un petit moyen. Bon. Donc, on va jouer en tant que détermination, dans ce système de détermination, pour faire en sorte que l'autre fasse quelque chose. Donc, la pensée de ce possible dans ce système de détermination, elle n'est pas inutile.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire, du point de vue de Spinoza, que si quelqu'un peut faire quelque chose, s'il est nécessaire qu'il puisse, si vous me permettez de le dire ainsi, il est nécessaire et il n'est pas du tout hasardeux qu'un professeur le ressente et le lui dise, et donc finalement il va le faire. Autrement dit, l'ensemble de ce que vous venez de décrire, du point de vue de Spinoza, n'est-il pas parfaitement nécessaire ?
D'une certaine manière, on pourrait dire que tout est nécessaire, puisque si ce prof a été bien formé, il a été déterminé à avoir suffisamment de psychologie pour appuyer là où ça fait du bien chez l'élève, afin de l'empuissanter, de lui donner un peu plus de puissance. Donc en effet, d'une certaine manière, tout est déterminé. Mais on pourrait se poser la question de savoir si il n'existe pas, comme le disait Cournot, ce logicien philosophe du 19e siècle, des séries causales indépendantes. Parce que c'est la grande définition du hasard par Cournot, c'est l'intersection entre deux séries causales indépendantes. Il y a des séries causales, et Spinoza et Cournot le diraient, la nature est faite de séries causales. Mais est-ce que ces séries causales sont toutes faite d'un tissu qui ferait qu'elles sont toutes en interconnexion. C'est-à-dire, est-ce que d'une série causale à l'autre passent des informations qui font qu'on peut dire qu'elles-mêmes s'entredéterminent, ou alors est-ce qu'elles sont susceptibles d'avoir une certaine forme d'indépendance ? Cournot tient la thèse qu'il existe des séries causales indépendantes d'un certain point de vue. Ben, je ne suis pas loin de penser que Spinoza dirait la même chose.
Ah oui ? Il y a donc quand même des interstices entre les séries causales.
Alors, ce que dirait au fond Cournot, c'est que d'un point de vue théorique, comme il dit, on pourrait dire d'un point de vue ontologique, la nature est faite d'un seul tissu. Tout est en interconnexion. Et Spinoza dirait également, d'une certaine manière, la substance divine traverse toutes les modalités de la nature. Il n'y a rien qui soit, on va dire, complètement indépendant du reste de la nature. Donc on pourrait dire, d'une certaine manière, il y a un tissu qui relie toutes choses. Ceci étant dit, ce qui, d'un point de vue théorique, vaut, d'un point de vue physique, peut être négligeable. Qu'est-ce que nous dit Cournot ? Si je frappe du pied sur le sol, personne n'irait penser que ça va avoir une incidence sur les anneaux de Saturne ou sur la conduite d'un bateau aux antipodes. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'infinitésimal physiquement. Eh bien, il me semble que on pourrait dire cela. Alors, ça veut dire que d'un point de vue ontologique, il y a un tissu global, mais qui est suffisamment plastique, souple, pour que, d'un point de vue physique, on puisse négliger certaines incidences de séries causales sur d'autres. Et donc, pour qu'on puisse penser l'indépendance de séries causales, qui, lorsqu'elles se croisent, produisent peut-être du hasard. Il me semble que Spinoza, dans son appendice à la partie 1 de l'éthique si célèbre, lorsqu'il attaque le finalisme, va chercher justement quelque chose comme le croisement de deux séries causales indépendantes pour promouvoir le hasard. Et Cournot, qui est un grand penseur du hasard, qui insistera beaucoup plus sur la plasticité du tissu naturel, eh bien, ira dans cette voie en disant « c'est cela le hasard ». Ça ne nie pas la nécessité, justement.
Enfin, je note que chez tous, je fais une exception pour les épicuriens, nous allons y revenir, en tout cas au XVIIe siècle, du point de vue du tout, qui est pour Spinoza le point de vue de Dieu, Et pour le point de vue de Dieu qui a accès au tout, pour Descartes, du point de vue ontologique, avez-vous dit tous les deux, de l'être, il n'y a pas vraiment de hasard. Il y en a un du point de vue physique, qui est le cerveau humain qui fait de la physique, peut-être, même chez Spinoza, il y en a... Il y a voilà, j'entends quand même dans ce que vous venez de dire, des affaires de point de vue. Et je voudrais vous poser maintenant une question qui est, est-ce que néanmoins, il n'y a pas quelque chose d'insupportable pour nous? Le fait que nous soyons finis, tous des êtres finis, dans la reconnaissance du hasard. Est-ce que nous n'avons pas tendance, à chaque fois, à concevoir le hasard comme une logique profonde cachée, que ce soit celle de Dieu ou que ce soit celle d'une raison magnifique à laquelle nous n'avons pas accès? Je voudrais vous proposer, pour traiter ce problème, d'écouter un extrait, ça va peut-être vous surprendre, de La Chèvre, ce film de Francis Weber sorti en 1981 avec Pierre Richard et Gérard Depardieu.
Je pourrais vous parler un petit instant, monsieur le Président.
Je n'ai pas beaucoup de temps ce matin, voyez ma secrétaire.
C'est au sujet de votre film, monsieur le Président.
Je vous écoute.
Ce que je vais vous proposer va vous paraître absurde, monsieur le Président.
Ça fait plus d'un mois qu'elle a disparu. La police n'a rien retrouvé et le privé que j'ai envoyé là-bas n'a rien retrouvé non plus. J'ai vu un radiesthésiste hier, monsieur Meyer. Un type avec un pendule. Plus rien ne peut me paraître absurde.
Vous allez tout de même me prendre pour un fou, monsieur le Président. Il y a la comptabilité, un garçon qui s'appelle Perrin, monsieur le Président. Ça fait 10 ans que je travaille ici, monsieur le Président. Et chaque fois que vous m'avez parlé de votre fille, c'était pour me raconter une catastrophe. Je crois que c'est la fille la plus malchanceuse que je connaisse. C'est fascinant, la malchance, monsieur le Président. Fascinant.
Monsieur Perret est là, monsieur le Président.
Faites-le entrer. Vous allez lui demander de s'asseoir.
Monsieur le Président?
Asseyez-vous, je vous en prie.
Où?
Où vous voulez.
Je suis désolé.
Je vous remercie, monsieur Perrin. Pouvez nous laisser maintenant. D'après moi, la seule façon de retrouver la petite, c'est de confier l'enquête à quelqu'un d'aussi malchanceux qu'elle. Un type comme vous ne peut pas la retrouver, parce que vous êtes normal. Tandis qu'un malchanceux qui va glisser sur les mêmes pots de banane qu'elle, se prendre les pieds dans les mêmes tapis, peut éventuellement retrouver sa trajectoire.
C'est assez vertigineux, ce problème. Peut-être pourrions-nous le traiter avec des philosophes. Pierre-Marie Morel, ne sommes-nous pas tentés, même en philosophie ancienne, à chaque fois qu'il y a de l'incertain, qu'on s'en remet au sort, en disant, ben voilà, rien n'a marché, il n'y a plus que la chance, il n'y a plus que le sort, la fortune, le hasard. Ne sommes-nous pas, un peu comme ce détective privé de La Chèvre, tentés de dire, mais on peut jouer le sort à fond, on peut jouer la chance et la malchance à fond, on va prendre quelqu'un qui a un rapport spécial à la chance, en l'occurrence c'est un gaffeur et un malchanceux, et on va déployer une certaine logique du hasard qui finira par payer. Autrement dit, n'avons-nous pas tendance à saisir de la logique au moment même où on prétend s'en défaire ? Saisir de la nécessité au moment même où on prétend s'en remettre au hasard.
Alors, ce qui est sûr, c'est que, justement, puisqu'on parle des atomistes, et notamment des atomistes épicuriens, ce qui est vrai, c'est que pour eux, il y a une espèce de hasard radical.
Mais radical, je crois que ce sont les seuls à le dire aussi clairement, non ?
Peut-être. En tout cas, il n'y a pas de privilège de l'ordre sur le désordre chez eux. Parce qu'il y a une infinité de monde dans un vide infini, ou un nombre indéfini de mondes dans un vide infini. Et à l'origine de ces mondes, ben, il y a une contingence radicale, une indétermination fondamentale. Donc ça, effectivement, c'est une position extrêmement forte.
Donc si je me permets juste de revenir à l'exemple, ça voudrait dire que ce détective, avec sa logique, le hasard, va nous montrer des choses, on va jouer la chance à fond. Ça c'est impossible chez les épicuriens, parce que le monde... au bout du bout, comporte quelque chose d'incertain. Il n'y a pas de logique du hasard, il n'y a que du hasard.
Au bout du bout, oui, si on raisonne en termes qu'on va dire cosmologiques au sens très large. Après, là où cet extrait est intéressant, c'est qu'il introduit cette espèce de radicalité du hasard dans le domaine de la conduite humaine. Mmh. Et là, dans le domaine de la conduite humaine, Épicure lui-même, dans son texte qu'on connaît le mieux, généralement... Bon, l'étudiant terminal, la lettre à Ménécée, vers la fin de la lettre à Ménécée, il dit « Il y a de la fortune, mais il serait déraisonnable, alors qu'elle est totalement instable, de lui imputer une véritable responsabilité. Donc il faut l'encadrer en quelque sorte. Il faut qu'elle soit sous contrôle. Et pour ça, il faut distinguer différents types d'événements. Encore une fois, pour la conduite humaine, même si à l'origine des mondes, comme je le disais tout à l'heure et vous y reveniez, même si à l'origine du monde il y a une contingence radicale, pour la conduite humaine, on doit distinguer d'une part le hasard ou la fortune, bien sûr, qui joue un rôle dans nos existences, et notamment, comme ce que disait Pascal Sévérac tout à l'heure à propos de Spinoza, un rôle de condition de possibilité, un espace d'indétermination qui va me permettre d'agir. Mais il y a aussi et surtout ce qui dépend de nous, ce qu'en grec on dit para emas, hein, par emas. Et à côté de cela, il y a des choses qui relèvent de la chaîne causale, la nécessité. Donc hasard, ce qui dépend de nous, chaîne causale.
Donc jouer avec nécessité. Le hasard en espérant une logique n'a aucun sens pour les épicuriens. Nous devons.
Il faut l'encadrer.
Ça n'apportera aucune sagesse, aucun savoir. Il peut arriver que la logique de nos actions, qui elle doit être déterminée, pensée, avec un rapport à la nécessité, rencontre le hasard. Mais le hasard, en vérité, est autre chose substantiellement. On ne peut pas se mettre à jouer avec lui, c'est trop périlleux.
En tout cas, ce qu'on ne peut pas faire, c'est lui attribuer tout pouvoir. Au lieu de croire, parce que bon, cette notion de hasard, elle est polémique fondamentalement. Hein. C'est un combat, je dirais presque idéologique, que de dire il y a du hasard, parce que ça veut dire on écarte le providentialisme, on écarte la volonté des dieux, il y a un hasard radical. Mais de l'autre côté, on écarte cette croyance selon laquelle notre vie serait tout entière livrée au hasard. Donc on a une double détermination négative, il y a du hasard, la volonté supposée des dieux n'est pour rien dans nos existences en réalité, et ce qu'il faut c'est donc encadrer ce hasard et croire qu'il y a des choses qui véritablement dépendent de nous, mais qui n'éliminent pas le hasard, mais qui lui assignent des limites.
Pierre Guédancia, pensez-vous que de ce point de vue-là, cette sagesse épicurienne, il y a des choses qui dépendent de nous, d'autres qui n'en dépendent pas, et ne cherchons pas de l'ordre dans ce qui ne dépend pas de nous. Cette logique, elle s'est retrouvée à l'époque moderne, au fond elle s'est retrouvée aussi chez les stoïciens, entre ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Et Descartes ne dit pas autre chose quand il... Vous êtes d'accord ?
Bien sûr qu'il ne dit pas autre chose. Il y a des choses qui...
Mais pourtant, personne ne dit autre chose. Pourtant, il n'a rien d'un épicurien sur le plan.
Vous dites autre chose, qu'il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Et elles sont beaucoup plus nombreuses que les choses qui dépendent de nous et qui sont liées non pas tant à un état de savoir, encore moins de savoir total, qu'à un état de détermination de la volonté. C'est-à-dire, bon, voilà, je sais que c'est incertain, donc je me décide. Il n'y aurait pas de décision s'il n'y avait pas de hasard, il n'y aurait pas de décision. On n'aurait jamais rien à décider. On décide en situation, excusez-moi d'enfoncer des portes ouvertes, mais on décide en situation d'incertitude.
Oui.
Or, cette incertitude, c'est au fond le nom pour dire l'ensemble des causes que nous ne connaissons pas, ou je préférerais dire l'ensemble des événements, c'est-à-dire ce qui se produit sans qu'on puisse justement en déterminer le moment ou la raison.
Alors, on va revenir à nouveau à Spinoza. Est-ce que, dans son cas, nous nous posons la question après une lecture, vous allez voir, il n'y a pas d'abord l'idée que les gens qui se fient au hasard comme à une logique profonde font erreur, parce que souvent, la logique qu'ils imaginent est beaucoup trop simple. C'est du divin à la petite semaine, c'est du divin trop facile, c'est insupportable, mais derrière, nous nous demandons si pour lui aussi, il n'y a pas quelque chose comme de la nécessité. Écoutez cet extrait de l'Éthique, appendice du livre 1, où Spinoza s'énerve contre les amoureux du hasard qu'on peut jouer, du hasard logique.
Si une pierre est tombée d'un toit sur la tête de quelqu'un et l'a tué, c'est de cette manière que les partisans du finalisme démontreront que la pierre est tombée pour tuer l'homme. En effet, si ce n'est pas à cette fin et par la volonté de Dieu qu'elle est tombée, comme en tant de circonstances, en effet, souvent beaucoup y concourent, ont-elles pu se trouver concourir par hasard ? Tu répondras peut-être que c'est arrivé parce que le vent a soufflé et que l'homme passait par là. Mais ils insisteront. Pourquoi le vent a-t-il soufflé à ce moment-là ? Pourquoi l'homme passait-il par là justement à ce moment-là ? Si de nouveau tu réponds que le vent s'est levé à ce moment-là parce que la mer, la veille, partant encore calme, avait commencé à s'agiter, et que l'homme avait été invité par un ami, de nouveau ils insisteront, car poser des questions est sans fin. Et pourquoi la mer s'était-elle agitée ? Pourquoi l'homme avait-il été invité pour ce moment-là ? Et c'est ainsi, de proche en proche, qu'ils ne cesseront de demander les causes des causes jusqu'à ce que tu te réfugies dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans l'asile de l'ignorance.
Pascal Sévérac, pour Spinoza, dire qu'il y a de la volonté de Dieu facile à comprendre, cause suprême, toujours dans le hasard, d'abord ça l'énerve. Pour lui, c'est une ignorance, c'est stupide. Expliquez-nous.
Ben, comme l'a bien dit Pierre-Marie, le hasard, en effet, est une notion polémique au sens où la promotion du hasard vient contester l'idée d'un finalisme, l'idée d'une intentionnalité dans la nature.
Vous pouvez un petit peu expliquer ces mots, je vous prie de m'excuser.
Le finalisme, alors je vais encore utiliser une autre expression, mais c'est l'idée qu'il existe des causes finales. On devrait peut-être d'ailleurs appeler ça plutôt des fins causales, c'est-à-dire des fins, des buts qui sont causes de l'ordre du monde. Et ces buts seraient donnés par des volontés supérieures, par ce que Spinoza appelle des recteurs de la nature, mais ça peut être par un dieu qui est pensé comme celui qui tire les ficelles de la nature. Donc ce que nous dit Spinoza, c'est que la causalité naturelle, elle se comprend par elle-même, elle ne se comprend pas par une intentionnalité cachée. Sa critique du finalisme, elle anticipe la critique qu'on pourrait faire aujourd'hui du complotisme. Il y a des intentions partout. Alors, il se trouve que les hommes ont des intentions et qu'ils peuvent parfois fomenter des complots. Mais on a cette tendance à penser un événement à partir d'une intention cachée. Si ça a eu lieu, c'est donc que certains qui ont du pouvoir devaient vouloir ceci ou cela. Eh bien, le finalisme, c'est cela. C'est l'idée que, finalement, comme on n'arrive pas à trouver le sens, on se réfugie dans la volonté de Dieu, asile de l'ignorance.
Est-ce que c'est Aristote qui est visé, là ?
Oui, sans doute, c'est Aristote qui est visé, mais...
C'est-à-dire l'idée qu'il y a des buts dans la nature.
Oui, qu'il y a... chez Aristote, on a quand même une thèse ontologique qui est que les choses sont faites selon un premier principe. Il n'y a pas l'idée que, forcément, il y a une instance cachée qui tire les ficelles. Donc, ce qui est davantage visé, c'est la superstition qui voit des intentions cachées. Mais... ce que je voudrais dire, c'est que dans le texte qui a été lu, le mot hasard intervient, mais il intervient justement, faut voir quelle voix, on va dire, se prononce, il intervient dans la bouche du partisan du finalisme pour dire « Mais attends, le hasard, il n'est pas possible. Quand je passe là sous une hauteur, je me prends une tuile ou une pierre qui tombe du toit et tu vas me raconter que tout ça s'est fait par hasard. » Donc le hasard, en fait, c'est celui qui dit « Ben oui, il y a du hasard des fois. Il y a l'intersection de deux séries causales indépendantes. J'ai été invité chez mon ami, le vent a soufflé, une pierre est tombée, il n'y a pas d'intention cachée. » Donc celui qui refuse le hasard, c'est justement le partisan du finalisme, des intentions cachées, qui dit « Il n'y a pas de hasard. » Dire « Le hasard existe », c'est dire bah, « Peut-être sortez de votre superstition finaliste. » Et donc, il me semble que Spinoza ici met dans la bouche du partisan du finalisme le mot « hasard » pour le rejeter. Et donc, c'est en faire un peu la promotion. Et c'est de dire bah, « Voilà deux séries causales. » Alors, on peut toujours penser, par exemple, que les pas du promeneur, en résonnant, ont fait un peu tomber la pierre qui a tué la personne. Mais comme dirait Cournot, ça c'est physiquement négligeable parce que c'est de l'infinitésimal. Les séries causales, physiquement, sont indépendantes.
Oui, mais j'entends tout à fait. Mais
et donc, il y a du hasard.
Mais j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que Spinoza stigmatise, dénonce ceux qui cherchent des causes trop faciles, finalise, dites-vous, des buts cachés, des logiques qui sont complètement stupides, et contre eux, il défend le hasard, mais lui, dans sa philosophie, il n'est pas contre le fait de chercher des causes profondes, simplement plus intelligentes. Plus intelligente, plus complexe que celle des finalistes, comme vous dites. Pierre Guénantia,
est-ce que je peux ajouter
qu'est-ce que vous en pensez ?
M'insinuer dans ce débat. Je crois que dans ce texte, en un sens, c'est peut-être un des rares textes où Spinoza, d'une certaine manière, accueille le hasard comme étant une délivrance sur le plan de la rationalité contre ceux qui, justement, le nient au nom, Pascal l'a dit, au nom d'intentions cachées, etc. Si vous me permettez ce mot un peu inactuel, je crois que ce que Spinoza critique ici, c'est ce qu'on appellerait la mentalité primitive, la mentalité magique. Hein, dans le très beau livre de Lévi-Brulle sur la mentalité primitive, justement, c'est un point sur lequel Lévi-Brulle insiste beaucoup, c'est que pour le primitif, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, arrive selon une cause qui a du sens, hein, c'est-à-dire qui dit quelque chose pour l'homme. C'est pas une cause mécanique, hein, c'est en ce sens que c'est du finalisme. Mais au fond, je crois pas que Spinoza critique quelque chose de philosophique vraiment. Aristote a une pensée beaucoup plus profonde et beaucoup plus complexe que celle que non, ce qu'il critique, c'est la superstition, et c'est bien le sort de cette célèbre appendice premier où les marxistes autrefois voyaient la critique de l'idéologie par anticipation, mais ou la critique de l'imaginaire. Mais c'est au fond plutôt la critique d'une mentalité primitive, je crois.
Mais vous pensez aussi que Spinoza, une fois qu'on a critiqué ces fausses logiques absurdes, essaye quand même de dégager le nécessaire partout. Il, à sa façon, à lui, bien plus intelligente, bien plus complexe, il atteint la notion de hasard, il l'a réduit aussi.
Bien sûr.
On est d'accord.
Alors,
Descartes, l'homme n'en est pas capable, mais Dieu aussi réduit le hasard.
Chez Spinoza, sans doute aussi. Il pense pas quand même qu'on peut tout connaître, même si on peut tout comprendre, mais idéalement, d'une certaine manière, parce qu'il y a une finitude quand même. On n'a pas un temps indéfini, etc. Même si une partie de nous-mêmes est éternelle, c'est difficile à savoir d'ailleurs. Mais même chez Spinoza, c'est qui peut refuser l'idée que l'homme ne peut pas tout connaître? C'est pas possible.
Même Spinoza
ne peut pas refuser
cette idée. Et là, il y a quand même un philosophe du XVIIe siècle qui a vécu entre Descartes et Spinoza, Pascal, né en 1623. Et alors Pascal, lui, voit un Dieu tout-puissant, sans doute du point de vue de Dieu, les choses sont-elles nécessaires? En tout cas, c'est un point que nous ne pourrons jamais atteindre parfaitement. Est-ce que, néanmoins, notre raison peut s'emparer du hasard d'une manière que ni Descartes avant lui, ni Spinoza après lui n'envisagera?
C'est la grande coupure, Pascal. C'est la grande coupure dans la conception et dans la pensée du hasard. C'est que le hasard, pour lui, ne fait plus l'objet d'une pensée ou d'une recherche de connaissance ou de compréhension, mais l'objet d'un calcul. Et donc, à ce moment-là, il délivre, d'une certaine manière, la notion d'événement ou de casualité, il la délivre, justement, d'une relation à la compréhension et au sens. Et du coup, il peut la traiter comme on traite d'un jeu de dés, un jet de dés, c'est-à-dire en calculant le nombre de coups nécessaires pour que telle phase se produise, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. On l'a dit plusieurs fois, Pascal, c'est l'inventeur, le précurseur de ce qu'on appellera plus tard le calcul des probabilités.
Eh bien, on écoute l'adresse de Pascal à l'Académie parisienne en 1654.
S'il plaît à Dieu, paraîtra un traité tout à fait nouveau, d'une matière absolument inexplorée jusqu'ici, à savoir la répartition du hasard dans les jeux qui lui sont soumis, ce qu'on appelle en français faire les parties des jeux. La fortune incertaine y est si bien maîtrisée par l'équité du calcul qu'à chacun des joueurs on assigne toujours exactement ce qui s'accorde avec la justice. Et c'est là certes ce qu'il faut d'autant plus chercher par le raisonnement qu'il est moins possible d'être renseigné par l'expérience. En effet, les résultats du sort ambigu sont justement attribués à la contingence fortuite plutôt qu'à la nécessité naturelle. C'est pourquoi la question a erré, incertaine jusqu'à ce jour. Mais maintenant, demeurée rebelle à l'expérience, elle n'a pu échapper à l'empire de la raison. Et grâce à la géométrie, nous l'avons réduite avec tant de sûreté à un art exact qu'elle participe de sa certitude et déjà progresse audacieusement. Ainsi, joignant la rigueur des démonstrations de la science à l'incertitude du hasard et conciliant ces choses en apparence contraire, elle peut, tirant son nom des deux, s'arroger à bon droit ce titre stupéfiant, la géométrie du hasard.
Pierre-Marie Morel, ça va surprendre, mais je vais aller chercher le spécialiste de philosophie ancienne, là. C'est vraiment quelque chose que personne, même les plus grands penseurs du hasard reconnus comme tels, comme les épicuriens, qui disent que les atomes qui constituent l'univers bougent, et parfois, c'est ce qu'il appelle le clinamen, crée un écart proprement hasardeux, qu'on ne peut absolument pas réduire. Il n'y a pas de théorie de comment ça se passe exactement, une espèce de reconnaissance ontologique, disent les philosophes du hasard. Alors même eux n'auraient pas imaginé qu'on puisse le théoriser sous la forme de probabilité. C'est encore trop de raison, c'est encore trop de puissance. Qu'en dirait-il dans un jeu un peu fou de les faire répondre à Pascal, mais après tout, la philosophie, c'est ça aussi.
Oui, mais c'est sûr que la notion de probabilité ici arrive comme... oui, elle arrive de très loin, de l'extérieur, par un mouvement rétrospectif. Mais en même temps, on trouve déjà, dans plusieurs textes anciens, des idées qui la préfigurent. Hein. Chez Aristote, par exemple,
oui.
Plus vous tentez de coups, plus vous avez de chances d'atteindre la cible. C'est une image qu'il emploie, par exemple, à propos de l'éthique ou à propos des rêves, des apparitions dans les rêves. Et chez Démocrite, donc le fondateur de l'atomisme, à qui Épicure a, d'après Cicéron, volé l'essentiel de sa physique, chez Démocrite, vous avez déjà l'idée que, d'une certaine manière, on a une espèce de logique immanente du hasard qui va faire qu'à partir d'une infinité d'atomes, de toute forme, nécessairement, vous avez une infinité de combinaisons possibles. Donc, vous avez une combinatoire. Vous n'avez pas l'idée de probabilité exactement, mais vous avez l'idée de combinatoire. Si j'ai une infinité d'atomes de toute forme, nécessairement, je peux rendre raison, au moins par principe, de toutes les combinaisons possibles, c'est-à-dire de tous les corps différents, des différents mondes, etc. Donc, vous voyez, sans être dans les coordonnées qui sont celles du texte qui a été lu tout à l'heure, il y a déjà l'idée qu'il y a une espèce de logique objective de l'incertitude.
La raison, Pierre Guénantia, pour Pascal, peut quand même quelque chose. Et Pascal aurait trouvé une manière d'aborder le hasard sans détruire son existence pour les humains, oui, nous ne pouvons pas savoir tout, et sans en même temps foncer dans la certitude d'une nécessité qu'on ne peut pas du tout penser, qui est autre. La raison aurait un marchepied là, une manière de faire avec le calcul des probabilités.
Oui, je crois que ce que Pascal fait dans ces textes-là, à la fois géométriques et puis aussi philosophiques, parce qu'il y a le pari. Jamais Pascal n'aurait écrit le pari de Pascal, jamais ce texte extrêmement célèbre, si justement il n'avait pas, en tant que géomètre, en tant que mathématicien, découvert une manière d'aborder le hasard qui n'est pas une manière ni ontologique ni herméneutique. Je veux dire par là qu'on ne recherche pas des causes et on ne recherche pas du sens, mais on prend les choses comme elles sont, factuellement, ça vous plairait, hein, factuellement, c'est-à-dire au fond, on considère les choses comme des faits et on essaye d'en déterminer la fréquence, la probabilité, autant de concepts tout à fait nouveaux qui entrent dans le domaine de la rationalité. Il ne s'agit pas de faire droit à l'irrationnel, au contraire, il s'agit d'élargir la raison à des choses qui n'ont pas jamais été considérées comme des choses qui sont susceptibles d'être gouvernées ou comprises par la raison, et qui sont justement les événements, les faits, les occurrences, autant de réalités, en quelque sorte, qui demandent non pas à être comprises, mais à être ordonnées par l'entendement selon justement des déterminations statistiques. C'est un peu aussi le début de la statistique. Enfin, en un sens, le pari de Pascal, c'est un pari sur la statistique. Parier que Dieu existe, voilà, vous avez beaucoup plus de chances d'être heureux que de ne pas parier sur l'existence de Dieu. Qu'est-ce que vous avez à perdre ? Rien, la vie est finie. Qu'est-ce que vous avez à gagner ? Une infinité de chances et de hasards. Ça ne veut pas dire que Dieu existe. Ça veut dire que vous avez... Pascal se situe sur le plan de la logique de l'action humaine. Et c'est ça qui est intéressant, oui. C'est de voir dégager, en quelque sorte, ce plan de l'action humaine du plan de l'ordre du monde. Mm-hmm. On n'en a plus rien à faire de l'ordre du monde. Il faut savoir ce qu'on doit faire et on a les moyens de le faire. Et si je peux ajouter une toute petite chose, parce que là, on est dans le domaine de la théorie, mais dans le domaine de la pratique, il y a ce discours sur la condition des grands, qui est un texte magnifique de Pascal, qui vaut beaucoup de textes politiques, dans lequel il cherche à persuader les grands qu'ils ne sont grands que par le hasard. C'est le hasard qui les a fait grands, c'est le hasard qui m'a fait batelier, c'est le hasard qui m'a fait duc. Comme ce naufragé qui arrive dans l'apologue de ce discours et que les gens prennent pour le roi. Ben voilà. Donc il y a des méprises qui sont absolument nécessaires, fertiles, utiles et au fond voilà. Mais Pascal, dans ce texte, il désubstantialise la réalité sociale. Mmh. On n'est pas grand parce qu'on est essentiellement grand. On est grand parce que le hasard nous a fait grand.
Splendide hasard, splendide nuit. Il y a des regards qui donnent la vie. Splendide amour, passion déchue. Doit-on mourir d'avoir vécu? Les souvenirs volent comme les nuages. Et s'évaporent les paysages. J'appelle. Splendide hasard, splendide hasard, splendide étoile. Éveiller la passion en moi. Splendide amour, vertige bizarre. Envoyer mon cœur au combat. Et toutes les flammes de mon corps. Voudrais brûler bien plus fort. J'appelle la vie un splendide hasard.
Michel Berger, Splendide hasard, 1986. Merci beaucoup Pascal Sévrac, Pierre Guénantia, Pierre-Marie Morel. Les références de vos travaux sont précisées sur le site de cette émission. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worm. Cette semaine, il s'intéresse à comment va le monde aujourd'hui. Voici le pourquoi du comment. «
Comment peut-on parler du monde ? Le discours sur le monde aujourd'hui commence le plus souvent par une phrase anodine et qu'il faut pourtant prendre très au sérieux, car peut-être cela nous dit-il la vérité de ce concept philosophique très discuté, qui est le concept de monde lui-même. Aujourd'hui, nous abordons le monde par un désordre mondial. Nous disons « rien ne va plus ». « Rien ne va plus », disons-nous d'ailleurs d'une manière très genrée. « Rien ne va plus, ma bonne dame » ou « bon monsieur ». « Rien ne va plus dans le monde ». « Le monde se dérègle ». « Le monde ne va plus du tout ». Qu'est-ce que cela nous apprend sur la notion de monde ? Bien sûr, il y a cette idée apparente, en tout cas pour les êtres humains, que le monde, c'est d'abord l'universel, c'est d'abord l'univers. L'univers tout court, l'univers, la planète, le cosmos. Aujourd'hui, nous avons ce sentiment, en effet, que très concrètement, le monde, au sens de l'univers naturel, le cosmos, qui a un ordre, et bien justement, ce cosmos lui-même se dérègle. Que cet ordre est traversé par un désordre peut-être dû en partie aux êtres humains. Le monde va mal, les humains ont dérégler le monde. Et ce sens général du monde, ce sens naturel, nous ébranle en partie, mais nous révèle aussi quelque chose dans cet ébranlement, c'est que le monde, ce n'est pas en réalité la nature. La nature comme si elle était indépendante de nous, indépendante des vivants. Le monde, on peut le dire, c'est en réalité la nature en tant que milieu pour des êtres qui sont capables de se situer dans un milieu très large. Oui, peut-être chaque être vivant, il faudra y revenir, chaque être vivant à son milieu ou son monde, entre le monde comme cosmos indifférent à ses habitants, comme univers en général, et le petit monde de chacun d'entre nous, ce petit monde en réalité centré sur un être vivant. Oui, la fourmi, la tique à son monde. Oui, chacun d'entre nous, chacune et chacun est le centre d'un monde, et il y a ne monde que pour un centre qui est pour un être vivant. Entre ces deux sens, eh bien, qu'y a-t-il pour définir le monde en général ? On pourrait dire que le monde, c'est le milieu d'une certaine espèce qui justement vit toujours dans plusieurs mondes, vit toujours dans plusieurs dimensions, chacun d'entre nous, les êtres humains. Oui, nous sommes cette étrange espèce, peut-être y en a-t-il d'autres, on ne sait pas exactement les mondes des autres espèces vivantes, mais les humains sont les êtres qui, en tout cas, vont de leur petit monde individuel jusqu'au monde global, au monde du cosmos, de la planète, qui ne cesse de s'agrandir. Le monde, c'est l'endroit jusqu'où vont les yeux des êtres humains, jusqu'où vont les pouvoirs techniques aussi de ces vivants très particuliers que nous sommes. Les yeux des êtres humains vont, disait Bergson, jusqu'aux étoiles, à travers le télescope, notre monde s'agrandit, à travers le microscope, notre monde s'agrandit aussi, mais dans l'infiniment petit. Et Pascal disait qu'il avait le vertige devant ces deux infinis. Mais ces deux infinis ne sont pas indépendants de celui qui les regarde avec son télescope et ce microscope. Le monde, c'est donc l'ensemble des dimensions du vivant de certains êtres vivants que sont en particulier les êtres humains. C'est pourquoi aussi il y a dans l'histoire de la philosophie, un autre concept de monde opposé à ce monde naturel. C'est celui que Hannah Arendt voulait défendre et revendiquer. Pour elle, le monde, c'est le contraire de la nature et même de la planète. Il n'y a de monde pour les humains, disait-elle, que politique. Le monde, c'est la coexistence des êtres humains dans une société. Comment articuler les différentes dimensions du monde ? Quand nous disons le monde va mal, il est vrai que nous le disons à toutes ces dimensions, nos petits mondes, le monde en général, mais aussi le monde humain, le monde politique. Il faut aujourd'hui parler du monde pour savoir comment il va.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Riyad Kera, avec à la technique Alex Dang. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Nassim El Kabli, Corinne Amar, Victoire Mellet et Axel Dubois. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.